Là-dessus, on salue Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Julien, on commence avec une nouvelle tirée de Franco-Presse.
Oui, en fait, j'ai fait un petit mélange parce que bon, le gouvernement ne siège pas, le Parlement ne siège pas. Donc, la semaine dernière et l'autre avant, il y a eu plusieurs annonces à toutes sortes de niveaux. Mais il y en a deux qui nous intéressaient particulièrement. Le ministre des Langues officielles, Randy Poissonneau, a annoncé le 1er mars qu'il allait faire une bonification du financement de base pour les organismes communautaires francophones. Il y a plusieurs organismes et associations qui représentent les intérêts des francophones à travers le pays qui ont des très petites subventions. Parfois, ça paye à peine le salaire d'une personne. Une personne qui est obligée de tout faire dans l'association, non seulement la gestion, mais la représentation. Donc, c'est un métier difficile. Et l'augmentation du financement est toujours bienvenue. Il y a quand même, bon, c'est bien accueilli, cette annonce-là, à travers le pays, chez les associations, mais on rappelle qu'une grande partie du financement reste attachée à des projets et qu'avec ce type de financement-là, c'est difficile de prévoir à long terme et d'avoir une certaine stabilité. Ensuite, un peu plus tard, le 6 mars, le ministre de l'Immigration, Mark Miller, a annoncé la création d'un programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. Ça va être à l'automne. Ça vient, il y avait déjà depuis quelques années un programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord qui existait, qui avait une composante francophone, mais ce projet pilote-là a bien fonctionné. Ça permettait à des certaines municipalités de déterminer de quel type d'emploi ils avaient le plus besoin. Et c'est les villes, de cette façon-là, en collaboration avec le marché du travail, qui choisissaient un peu les immigrants, qui sélectionnaient des immigrants dont ils avaient besoin. Donc, ce programme-là va revenir, il va avoir une composante plus anglophone et on va séparer la composante francophone, parce que on a déterminé que ça fonctionnait bien et ça permettait de remplir des postes dans les communautés francophones.
Maintenant, il y a un roulement inhabituel dans l'équipe du premier ministre du Nouveau-Brunswick.
C'est ce que nous apprenait l'Acadie Nouvelle cette semaine, qui nous dit qu'en fait, l'équipe actuelle de ministres du gouvernement du Nouveau-Brunswick est totalement différente de celle lorsque le gouvernement est entré en pouvoir en 2018. On appelle ça un gouvernement minoritaire à ce moment-là. Ils ont fait une élection pendant la pandémie. Ils sont revenus majoritaires. Bon, les départs sont normaux en politique, mais apparemment, le caucus de Blaine Higgs souffre d'une division plus importante que d'autres. Il y a plusieurs décisions qu'il a prises qui ont déplu à ses ministres et à son caucus. Il y a au moins trois personnes qui ont claqué la porte du caucus, ceux qui sont sortis, soit qui sont fermés à la porte ou qui étaient tellement désaccords qu'ils sont partis. Dans ces décisions-là, il y a entre autres le changement de politique sur l'identité de genre dans les écoles qui a fait beaucoup parler au pays. Le politologue Tom Bateman, dans l'article de l'Acadie Nouvelle, souligne que, même si c'est normal, les départs en politique, le rythme de départ au gouvernement de Blaine Higgs, est plus élevé que ce qu'on a l'habitude de voir dans l'histoire canadienne. Puis en plus, hier, il y avait un sondage d'Angus Reid qui identifiait M. Higgs comme le premier ministre le moins populaire du pays, à 31% d'approbation. Il est juste derrière François Legault, premier ministre du Québec, à 32%.
Un nouveau mot dans mon vocabulaire, blastomys.
Oui, c'est un type de champignon. Pourquoi je vous en parle? Je parle de champignons ce matin. C'est le journal de Le Nord de Hearst qui nous apprend qu'il y a une recherche scientifique qui a permis d'identifier ce qui est un peu, pas d'identifier, mais c'est une suite. Je reviens en arrière. Je crois que je vous en avais parlé un peu. En 2021, la première nation de Quantity qui était à la proie d'une urgence sanitaire. Ça a pris plusieurs semaines avant qu'on réussisse à comprendre pourquoi 50 personnes avaient été malades et 5 étaient décédées. Finalement, le mystère avait été résolu. C'était un champignon, le blastomys, qui cause une maladie qui s'appelle la blastomycose, qui était présent dans la communauté, que ça a pris beaucoup de temps avant qu'on le détecte. Après ça, il y a eu un partenariat entre la Première Nation, un groupe de recherche de Mattawa dans le nord de l'Ontario et l'Université Laurentienne à Sudbury, qui a permis de trouver une façon de détecter beaucoup plus facilement ces champignons-là à travers des échantillons naturels, donc soit de la terre ou des choses comme ça, pour et c'est une analyse par l'ADN, donc c'est assez efficace, assez précis. Donc, ça ne change rien au fait que ce champignon-là est présent et qu'on ne pourra pas s'en débarrasser, mais c'est une avancée dans le sens où maintenant on pourra le détecter beaucoup plus rapidement, et pas juste dans la communauté de Constant Lake, si ça arrive ailleurs au pays, ce qui serait possible avec les changements climatiques, ça pourrait permettre de d'élucider l'hémisphère plus rapidement.
On a-t-il entendu un chat?
Oui, j'ai mon chat qui est très bruyant.
Comment s'appelle-t-il?
C'est Sophie. C'est une chatte siamoise de 19 ans.
Sophie! Alors, bonjour Sophie. Le Manitoba maintenant qui s'attaque à la charge administrative des médecins.
La province avait créé un groupe de travail en mars 2023. Ils viennent de remettre un rapport d'étape. Ils estiment que les médecins de la province font 633 000 heures de travail administratif. C'est du travail qui peut être utile, mais c'est aussi des heures qui pourraient être mieux utilisées à voir des patients. Le groupe de travail propose d'essayer de réduire ce nombre d'heures-là de 10%, soit en enlever 75 300 heures. Il reste à étudier, il faut qu'ils étudient chaque formulaire pour y arriver, est-ce qu'ils sont essentiels, combien de temps ils prennent le temps à remplir, à qui c'est utile, combien de gens consultent. Apparemment, la Nouvelle-Écosse est bien avancée dans ce domaine-là. Eux, ils ont déjà réussi à diminuer de 10% le travail administratif des médecins. Ça a permis d'augmenter le nombre d'heures pour les patients, pour les visites. Puis, et même apparemment, en Nouvelle-Écosse, on est en train de chercher à dépasser ce 10%-là, à enlever encore plus d'heures de travail administratif. Je trouvais la nouvelle intéressante. Oui, c'est que ça regarde au Manitoba, mais il y a peu d'autres provinces qui ont eu l'air de se pencher sur cette question-là. Je sais qu'en Ontario aussi, les médecins se plaignent qu'ils ont beaucoup d'heures de bureau à faire.
Et on s'en va au Yukon, une nouvelle série de l'aurore boréale.
Au Yukon, c'est le Yukon qui nous l'apprend, c'est l'aurore boréale qui nous l'apprend, mais un projet territorial, on pourrait dire, d'éducation en français, éducation postsecondaire. Il y a des écoles primaires et secondaires dans les territoires en langue française, mais il n'y a pas de collège ou d'université. Il y a un collège à Yellowknife, là, c'est un collège rattaché au collège anglophone et c'est qui fonctionne depuis quelques années. Mais l'an dernier, il y a une étude de faisabilité d'un comité pour les trois territoires qui recommandait une collaboration entre les trois, donc entre les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, pour créer quelque chose, un programme d'études postsecondaires. Ça serait une collaboration entre l'Association franco-yukonaise, l'Association francophone du Nunavut et le Collège nordique francophone des territoires du Nord-Ouest, celui que je vous disais qui était déjà présent. Ils souhaitent créer une entité de gouvernance pan-territoriale. Donc, les 4 prochaines années vont être consacrées à l'implantation, à la formation et à l'implantation de ce modèle. Donc, je sais qu'au Yukon, ça fait plusieurs années que les jeunes demandent une façon d'étudier le postsecondaire en français. Il y a une jeune très, très militante là-bas qui a été d'ailleurs présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française qui a dû aller étudier à Edmonton. Elle ne pouvait pas étudier en français au Yukon alors qu'elle aurait aimé pouvoir rester dans son territoire.
Et finalement, les Jeux de l'Arctique battent leur plein.
Oui, ça se passe cette semaine, c'est du 10 au 16 mars. Moi, je vous avoue, je ne connaissais pas les Jeux d'Arctique avant de lire ces articles-là de l'Aquilon, des territoires du Nord-Ouest. Encore là, c'est pour tous les territoires du Nord du Canada. Mais les Jeux d'Arctique, c'est pas juste le Canada, c'est aussi, en fait, ils se déroulent en Alaska en ce moment, dans la vallée de Matanuska, j'espère que je ne disais pas trop mal. Donc, c'est en Alaska, mais il y a aussi les pays scandinaves qui sont là, le nord du Québec et une délégation, les territoires. Puis la Russie est là habituellement, mais cette année, ils n'ont pas été invités, évidemment. C'est des jeux qui se déroulent aux 2 ans. C'est pour les jeunes de 11 à 18 ans. Il y a 2000 athlètes qui sont en Alaska en ce moment. Ça inclut aussi le Groenland, que j'ai oublié de nommer. Il y a une vingtaine de sports. Mais il y a quelques sports qu'on pourrait facilement identifier. Il y a du curling, du patin, du biathlon, du tir à l'arc. Mais il y a aussi des jeux assez uniques aux Inuits et aux Dene. Dene, qui est une autre première nation du nord du Canada. Il y a 11 épreuves, par exemple, dans les catégories des sports arctiques qui sont plus associées à des activités que les Inuits font. Il y a des sauts groupés, des coups de pied simples, des coups de pied doubles, le saut de jointure, la savate à la l'asken, imaginez-vous, l'attraper d'une main, la traction de la nuque, etc. Il y a aussi les jeux d'aînés, il y en a 6, et c'est des choses dans le même genre, des trucs qui sont associés à la survie dans leur territoire et à la chasse.
Très intéressant, les Jeux de l'Arctique, donc, jusqu'au 16 mars. Julien Caillouette, vous êtes maintenant rédacteur en chef chez Franco-Presse. Merci beaucoup, vous saluerez Sophie de notre part.
Avec plaisir.
À bientôt.